À Rencontre Spirituelle, aujourd'hui, une émission un peu particulière. J'espère que ça ne vous fera pas peur. Il sera question de Jean Calvin, ce très grand réformateur protestant. On peut dire presque que c'est le père du protestantisme. Et c'était un partisan de la prédestination dont on discutait beaucoup quand j'étais jeune. Il est né en 1509, puis il est mort en 1564. Il est donc là au moment de la réforme luthérienne de Martin Luther, dont je vous ai déjà parlé. Et ça l'a touché. Et puis il était à l'époque aussi plus tard du Concile de Trente, de Saint-Ignace de Loyola, vous voyez, de Saint-Thérèse d'Avila, Saint-Jean de la Croix. Mais il a vécu surtout à Genève, en Suisse. Il était français. À pareille date, l'an dernier, je vous avais parlé de l'émir Abdelkader, un mystique algérien, qui avait comme titre en Algérie « Commandeur des croyants musulmans et leader politique et chef de guerre ». C'est curieux pour un mystique, il est mort en 1883, et c'est un homme qui a su sauver beaucoup de chrétiens en Syrie. Il aurait probablement aujourd'hui sauvé ces pauvres trappistes qui ont été, il y a un an, assassinés en Algérie. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je vous fais une présentation de Calvin en résumé pour que vous puissiez vous situer. Son vrai nom, c'est Jean Cauvin, C-A-U-V-A-I-N, mais en latin, ça disait Calvinus, et puis c'est devenu Calvin. Et c'est devenu Calvin tout court, hein, sans prononcer son prénom. Il est né donc en France à Noyon, puis il est mort à Genève. C'est un théologien français. Donc, et comme on dit dans le dictionnaire, fondateur de la religion réformée ou de la religion calviniste. Les calvinistes en France, on les appelle les membres de l'Église réformée de France, qui sont très près maintenant des catholiques, très, disons, fraternels. Et les tensions qui ont existé autrefois entre les protestants français et les catholiques ne sont pas complètement disparus, mais disons qu'il y a beaucoup plus de fraternité, d'amitié, de collaboration, le mouvement œcuménique et bien d'autres choses ont changé l'atmosphère. Hein? Alors, cette religion réformée de Jean Calvin s'est propagée en France et aussi en Écosse. Si bien qu'à Genève, sur le grand monument à la mémoire des grands fondateurs du protestantisme, on voit le monument à côté de Calvin de Knox, le fameux Knox écossais. Après des études d'humaniste, il a été initié, comme je vous ai dit, au luthéranisme, à la doctrine de Martin Luther. Il est obligé de s'enfuir de France en 1535, un an après la découverte du Canada, voyez-vous, ça vous situe là. Et puis s'est installé à Bâle, en Suisse, où vivait, il y a quelques années, Hans-Urs von Balthasar. C'est là que nous étions allés l'interviewer pour l'émission Rencontre à la télévision, à Bâle. Puis finalement, il s'est installé à Genève. Et puis il est devenu chef politique, chef religieux tout-puissant. Et dans le dictionnaire, on dit qu'il a joint au rigorisme de ses principes une intolérance absolue. Une intolérance absolue, c'est dommage, hein, c'est terrible quand on pense. On veut réformer et on devient plus absolu que ceux qu'on quitte. Et puis, il a fait condamner au feu des gens, en particulier Michel Servet, puis etc. Son œuvre principale, c'est l'institution de la religion chrétienne. Il l'a publié d'abord en latin, puis il l'a traduite en français. Or, je vous le signale, parce que ça peut intéresser les gens qui s'intéressent à la littérature, Calvin est peut-être l'un des plus grands prosateurs français, c'est-à-dire des écrivains français de la Renaissance. Et son traité, donc, de l'institution de la religion chrétienne, est sans nul doute, d'après les spécialistes, le livre français le plus lu. Oui, le plus lu dans l'Europe du XVIe siècle, de son époque. Calvin y a inventé un style puis une langue que va admirer au siècle suivant même qui, Bossuet, un grand adversaire des protestants, et admirait le style qui était fait de simplicité, de clarté, puis une grande rigueur. Il écrivait très très bien. C'est une langue déjà classique par son dépouillement. Une langue surprenante de modernité. Hein? Et la vie de Calvin est devenue très populaire. C'est un mythe, finalement. Un mythe dans lequel on retrouve sa thèse de la toute-puissance de la grâce, comme je vous ai dit. Si l'homme est sauvé par la grâce de Dieu, c'est un mythe d'une vocation forcée, on pourrait dire. C'est très étrange. Dieu choisit, prédestine, donne la grâce, et l'homme est sauvé. Ça s'établit un peu sur l'histoire de Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas, hein, tout le monde, j'imagine. Du bon Jonas, là, ça suit 4 pages dans la Bible. Si vous ne l'avez jamais lu, lisez ça, c'est pas long, ça se lit en 5 minutes. Jonas qui est à bord d'un bateau, puis il veut pas aller prêcher comme on le lui a demandé, à Ninive, dans une ville païenne immense. Il préfère prendre un bateau pour s'en aller en Espagne se reposer. Mais le bon Dieu veut l'envoyer à Ninive. Il l'a choisi. Alors il envoie une famine à bord du bateau et Jonas est finalement jeté par-dessus bord parce qu'il y a trop de monde à bord du bateau. Et Dieu, qui est tout puissant, envoie un monstre marin. On dit toujours une baleine dans la chanson. Puis le monstre rejette Jonas à Ninive sur la plage et là il comprend par des signes qu'il doit prêcher. Et il devient donc prophète à son corps défendant. Et c'est l'urgence de sa mission qui fait qu'il devient un prophète. Et c'est Dieu qui s'en sert au fond comme d'un instrument. On peut se demander ce qui s'est passé et pourquoi des gens ont voulu réformer l'Église au point de s'en séparer et de faire qu'il y ait des protestants. Dans son beau livre « Vraie et fausse réforme dans l'Église », le père Yves Congar, il a publié ça il y a bien longtemps, ça a même été un livre qui était plus ou moins condamné à un moment donné, mais il dit bien que les hommes d'Église, de l'Église catholique, étaient chargés de pouvoir puis de fonctions importantes, et ont maintes fois failli, non seulement dans leur vie personnelle, mais dans l'exercice de ces fonctions qu'ils avaient. Puis il ajoute que dans la mesure où ils n'y sont pas de purs instruments de l'action de Dieu, la célébration des sacrements, puis le charisme d'infaillibilité qui est lié à la fonction du pape, mais ils apportent quelque chose d'eux-mêmes. Dans cette mesure-là, où ils sont eux-mêmes, là, ils sont pas bons. Il leur manque quelque chose à beaucoup d'entre eux. Et l'Église elle-même, dit le père Congar, par la voix de ses plus hauts pasteurs, en a fait plusieurs fois l'aveu. Et puis, à l'époque de la Réforme, ils ont d'ailleurs des textes formels à cet égard. Déjà, ils le reconnaissent, hein, Concile de Trente, etc. Et tout le mal est venu de nous, disent le pape Adrien VI et Carafa, un homme de Dieu, et d'autres qui s'adressent à Paul III, des légats là, qui ouvrent le Concile de Trente, ils reconnaissent les erreurs de l'Église. Hein. Puis le cardinal de Lorraine, à la fin de ses travaux, il dit à quoi on pourrait... qu'est-ce qu'on pourrait changer? Il faudrait transformer l'Église. Hein. Puis il y a les témoignages de Saint Pie V, de Saint Vincent de Paul, de Bossuet, puis de bien d'autres encore. On ne peut pas insister sur tout ça. Mais l'Église a reconnu ses torts. Et c'est dommage que l'Église n'ait pas compris Calvin, Luther et les autres. Hein. Mais par contre, dans des textes de Jean de Lumeau, Jean de Lumeau nous fait bien comprendre que la sclérose là, de l'enseignement catholique à l'époque, ce qu'on appelle la scolastique, y avait autre chose. Il n'y avait pas que cette sclérose, cette espèce d'endormitoire qui était... C'est pas que la scolastique soit mauvaise en soi, c'est qu'elle était mal enseignée. Mais il y avait quand même là les mystiques rhénans, je vous en ai déjà parlé, je vous ai parlé de Ruysbrock et d'autres, les grands mystiques allemands, là. Il y avait l'humanisme religieux, Il y avait une piété plus personnelle et moins liturgique que celle du Moyen-Âge classique. Il y avait des courants, toutes sortes de choses qui ont influencé sur, justement, même la réforme protestante. Et ça venait de l'Église catholique, ça. Il y avait toutes sortes de réformes à cette époque et Jean Delumeau développe très bien ça. C'est très intéressant de lire tous ces ouvrages autour de ces questions de ce qu'on appelle la réforme protestante. Alors Jean Calvin est allé s'établir à Noyon avec son père tout enfant, et puis il avait plusieurs frères et sœurs, puis à 12 ans, il avait déjà un bénéfice de l'Église grâce à son père qui avait un certain pouvoir à l'intérieur de l'Église. Et puis, son père, Gérard Covin, ou Calvin, c'était un homme de bon entendement, disait-on, et de bons conseils. Alors, il a voulu se charger de l'éducation de ses fils, puis alors, il a envoyé Jean au collège à Noyon. Puis, à la suite d'une peste, eh bien, le petit Jean s'est rendu à Paris à 14 ans. Il est devenu l'élève d'un grand grammairien, puis il a poursuivi des études dans le fameux collège de Montaigu. Et il est... ses classes de grammaire puis de philosophie ont été terminées à 18 ans avec beaucoup de succès. Alors, il a quitté Paris pour aller à Orléans. Il a commencé des études de droit avec le fameux Pierre de l'Étoile. Et là, il a vu que c'était le meilleur moyen pour parvenir au bien puis aux honneurs. Et petit à petit, dans sa grande puissance de travail, dans sa grande sobriété aussi, il est tombé malade un peu. Il a souffert de maux de tête, d'estomac. Il a souffert de toute sa vie de ça. Puis, quand il a été licencié en droit, il a quitté Orléans pour Bourges. Et petit à petit, s'est intéressé davantage, grâce aux textes de Luther, à des questions de théologie, de réforme de l'Église. Et puis, il a quitté plus ou moins les études littéraires. Et après la mort de son père, il a décidé de s'installer à Paris, qui était le centre de l'humanisme et du mouvement philosophique, là. Puis, dès le mois d'avril 1532, il fait paraître son premier ouvrage, qui n'a pas grand succès. Et ça le chagrine énormément. Et... il y a un sentiment qui éclate entre son... Il y avait eu un sentiment qui avait éclaté plutôt entre son père et les chanoines, là. Et puis, il a dû être excommunié, et ça a été terrible, parce qu'on excommuniait facilement à cette époque. Et ça, ça l'a choqué contre l'Église, Jean Calvin. Alors, son esprit réfléchi, chercheur, a hésité longtemps avant de se rendre... aux exhortations d'un de ses frères. Il a signalé lui-même en plusieurs endroits ses écrits. Son obstination, sa résistance, et la nouveauté des doctrines l'effrayaient, mais il s'est mis à s'y intéresser de plus en plus. Et puis au moment, comme je vous ai dit, de la mort de son père, il a cédé à l'influence de Luther et des réformateurs. Puis il s'est déclaré, pas tout à fait franchement huguenot, comme on dit, protestant, mais il a résigné ses charges catholiques et il s'est joint petit à petit à la réforme protestante. Et nous verrons tout à l'heure tout ce qu'il a pu faire pour essayer de transformer le christianisme. Dans la nuit du 19 octobre 1534, il est arrivé un événement absolument terrible pour l'époque. Il y a eu des placards qui avaient été imprimés secrètement et affichés secrètement, des affiches. Puis, quand on lisait ça, ça attaquait la messe. C'était affiché à Paris et jusque les portes du château de Blois où le roi résidait. Imaginez. Alors, il résidait pas là, mais je veux dire, il séjournait, là, c'était un de ses châteaux. Alors, une audace comme ça, donner le signal de la persécution. Alors là, il y a des bûchers qui se sont élevés de différents côtés. Et terriblement, les autorités politiques, de concert avec des autorités de l'Église catholique, ont tué, brûlé quelques protestants, des huguenots, comme on les appelait. Alors, nombre de huguenots qui étaient compromis là-dedans ont dû se sauver. Calvin était signalé parmi les suspects. Alors, il ne pouvait pas rester à Paris. Il s'est dirigé vers Bâle et les Bâlois, en Suisse, se demandaient quel était cet étranger qu'on rencontrait parfois, qui errait dans les rues. Il était toujours plongé dans la méditation. Mais Calvin poursuivait avec acharnement de l'œuvre mystérieuse qu'il avait entreprise. Puis le 23 août 1535, l'année suivante, son livre dont je vous ai parlé au tout début, L'Institution chrétienne, était terminé. C'est la date de la célèbre épître dédicatoire adressée au roi François Ier, qui était roi à l'époque. Vous savez que c'est sous François Ier que le Canada a été découvert en 1534. On connaît ça depuis notre enfance. Mais ce plaidoyer, là, cet épître, c'est un très éloquent en faveur des réformés de France. Parce que Calvin voulait conquérir la France, c'était son but premier, à une réforme chrétienne afin de transformer cette église qu'il considérait comme extrêmement décadente. Et Jean Calvin n'a pas cessé durant toute sa vie de remanier puis de développer son livre, l'Institution. Et si sa doctrine n'a pas subi de changement sur les questions essentielles, mais ça offre assez de variations sur des points secondaires quand même. Il transformait ça un peu, mais sur l'essentiel, non. Et là, de Bâle, à partir de Bâle, en Suisse, le Calvin a gagné l'Italie, s'est rendu à Ferrare avec un ami qui était très près de lui, M. Dutillet. Alors, il a reçu un accueil énorme de la duchesse Renée de France, qui, elle, était gagnée au luthéranisme. Si je me souviens bien, c'était la sœur du roi. Et toute la cour a subi l'ascendant de ce nouveau venu, Calvin. Calvin n'a pas séjourné longtemps à Ferrare, en Italie. On le retrouve en France, au mois de juillet 1536. Là, il règle différentes affaires de famille, puis il amène avec lui son frère Antoine, sa sœur Marie, qui l'accompagne en exil parce qu'il les a convaincus. Alors, il croyait pouvoir se retirer à Strasbourg, mais la guerre lui a fermé la route de la Lorraine, hein, qui fait partie de la France maintenant, mais ça a déjà fait partie de l'Allemagne. Il doit passer par Genève. Et là, il y a le fameux Farel qui prêche la réforme. Il y a une influence énorme, Farel, F-A-R-E-L. Alors, ce détour va fixer sa destinée. Son ami Dutillet informe Farel de la présence de Calvin. Alors là, cet apôtre de la réforme genevoise, tout brûlant d'un zèle incroyable d'avancer l'Évangile, dit le texte ancien des protestants, et sentant qu'il ne pouvait pas suffire à la tâche, a fait de tels efforts pour retenir Calvin que celui-ci a fini par céder. Et on écrit comme si Dieu l'eût saisi alors du ciel par un coup violent de sa main. Eux, ils voient évidemment l'œuvre de Dieu. Nous, catholiques, c'est le contraire. Alors, il commence par donner des leçons de théologie à Saint-Pierre. C'est une église, aujourd'hui malheureusement, il faut payer pour entrer, c'est une ancienne église catholique. Et là où était l'autel, bien, on ne voit plus que les traces, ils ont scié les bases de l'autel dans la pierre. C'est un peu tragique quand on voit ça, surtout que ça s'appelle Saint-Pierre. Moi, ça m'a brisé un peu le cœur quand je suis allé là. Et puis là, devant un auditoire composé de réfugiés de tous les pays, il prêche, il donne des leçons de théologie, puis vers la fin de l'année, il est admis à exercer les fonctions de pasteur. Quasiment de prêtre, si on veut, mais c'est pas vraiment prêtre. Et son caractère dur, c'est un homme inflexible, Calvin. Il a un esprit clair, méthodique, qui a une grande érudition, c'est un homme extrêmement instruit, ça lui donne un ascendant, finalement, parce qu'il est cassant un peu, mais il a de l'autorité. Il est désireux de donner à sa doctrine une forme, une forme bien précise, que tout le monde va pouvoir comprendre. Alors, il compose d'abord un catéchisme qu'il extrait là, de son livre, l'Institution, et puis qui paraît en français, comme j'ai dit au tout début, en 1536, et puis ça a un rayonnement énorme. Qu'est-ce que c'est que cette doctrine? Quels sont les points principaux de cette doctrine? Mais le centre de son système, c'est le dogme de la prédestination. Nous sommes prédestinés par Dieu. Dans leur lutte contre l'Église catholique de Rome, qui prêchait, elle, et qui prêche toujours, le salut par les œuvres, comme l'enseigne Saint Jacques, les réformateurs s'entendent pour nier le mérite des œuvres, Parce que faire des actions de charité, de bonté, de dévouement, de don de soi, c'est pas ça qui sauve, d'après eux. C'est la justification par la foi. Il faut croire d'abord. Et croire au Christ, croire à l'Évangile, croire à la Bible. Et Calvin trouve la prédestination au salut. Nous sommes prédestinés ou non au salut. Il prend ça dans l'Épître aux Romains au chapitre 9, les versets 10 à 23. C'est saint Paul qui semble formuler ça avec rigueur en parlant de la destinée de Jacob et d'Ésaü, puis en faisant la célèbre comparaison, là, vous savez, du potier puis des vases qu'il fabrique. Enfin, voici un texte de, je vous cite très brièvement, un texte de Jean Calvin pour vous aider à comprendre. Voici ce que Calvin dit. « Avant la création du premier homme, Dieu, par un dessein éternel, avait statué ce qu'il voulait être fait de tout le genre humain. Par ce dessein ou ce projet mystérieux de Dieu, il fut fait qu'Adam déchoirait de l'état d'intégrité de sa nature, au paradis terrestre, là, et que par sa chute, il entraînerait toute sa postérité, tous ses descendants, dans la culpabilité de la mort éternelle. Tous vouaient la mort éternelle. Et là, là. De ce même décret résulte la différence, dit Calvin, entre les élus et les réprouvés. Les réprouvés, ceux qui vont être damnés. Il ajoute, parce que Dieu a adopté les uns pour le salut, et qu'il a destiné les autres à une perdition éternelle. Imaginez, il a destiné les autres à une perdition éternelle. Ça fait peur, hein? Oh là là. Calvin ajoute encore que les réprouvés soient des vases de la juste vindicte de Dieu et que les élus soient des vases de sa miséricorde. Cependant, il ne faut pas chercher à cette différence d'autre cause que sa simple volonté. C'est lui qui décide, Dieu. Sa volonté, laquelle, dit Calvin, est la règle suprême de la justice. Plus loin, il dit encore que le diable et les réprouvés soient les ministres et les organes de Dieu et qu'ils exécutent ses jugements mystérieux. Cependant, Dieu, d'une manière incompréhensible, opère en eux et par eux de façon à ne contracter aucune souillure en concourant à leur vice, car il utilise justement et adroitement leur malice, leur méchant caractère, pour une bonne fin, quoique la manière dont il opère ainsi nous soit souvent cachée. Ça devient un peu compliqué, mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que, finalement, nous sommes prédestinés. Il dit, « Ceux-là agissent en ignorants et calomniateurs qui disent que si toutes choses se font par sa volonté et son ordonnance personnelle, Dieu est auteur du péché, car il ne distingue pas entre la dépravation manifeste des hommes et les jugements mystérieux de Dieu. » Il essaie de se rattraper, mais finalement, c'est Dieu qui nous prédestine, semble-t-il, à l'enfer. C'est un peu tragique. Nous verrons tout à l'heure comment, petit à petit, on peut arriver à trouver étrange la vie de cet homme, merveilleux par d'autres points. Et il faut bien comprendre que dans l'esprit des réformateurs qui se sont séparés, malheureusement, de l'Église catholique, leur point de vue, à la base, je pense bien, était sincère. C'était des gens un peu particuliers. Luther avait des traits de caractère très particuliers, Jean Calvin aussi. Ça ne les a peut-être pas aidés à rester au sein de l'Église catholique, tout en accomplissant leur désir de réforme de certaines choses. Mais il faut dire aussi, sous d'autres angles, que dans l'Église catholique, il y avait bien des faiblesses. Tant chez les papes, pensons à Alexandre VI, le pape Borgia, que dans bien des aspects de l'Église catholique. Et il y avait les indulgences. C'était pas facile, cette histoire des indulgences. Et l'argent, et les bénéfices, c'est-à-dire qu'on pouvait nommer comme Jean Calvin, qui a eu à 12 ans un bénéfice quand il était catholique. C'est-à-dire qu'il retirait certaines sommes d'argent. C'était un peu comme un prêt bourse pour faire des études, si vous voulez, mais c'était pas un prêt remboursable. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je vous cite un autre petit passage très bref de Jean Calvin. Ainsi que nous naissons en péché originel, et sommes tous maudits de Dieu et damnés dès le ventre de notre mère, non pas seulement par la faute d'autrui, mais à cause de la malice qui est en nous, encore qu'elle n'y apparaisse point. Et là, il dit quelque chose de terrible tout de suite après. Je déteste ceux qui nous attribuent quelque franc arbitre, c'est-à-dire libre arbitre, la liberté en d'autres termes. Je déteste ceux qui nous attribuent la liberté pour nous préparer à être en la grâce de Dieu ou coopérer comme de nous-mêmes à la vertu qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Ils détestent ça. Ils détestent la doctrine catholique qui dit que nous pouvons, par notre liberté qui nous permet d'aimer en somme, et de répondre à l'amour qui est l'Esprit-Saint. Si on voulait entrer dans les détails de la doctrine calviniste, il nous faudrait étudier la pensée de ce maître, quand même, sur le célibat. Hein? Calvin s'est marié, a eu une fille. Il faudrait étudier sa pensée aussi sur la scène, C-E, accent grave, N-E, c'est-à-dire la messe, comme nous, nous disons dans l'Église catholique, ou le sacrifice eucharistique aujourd'hui, ou l'Eucharistie. Aussi sa pensée sur la communion des saints, sur la confession, le sacrement du pardon, comme on dit aujourd'hui, sur la descente aux enfers, sur les images, sur la justification, puis sur la messe catholique, sur la papauté, sur les sacrements, sur la transsubstantiation aussi, hein, la présence réelle dans l'Eucharistie, sur les vœux monastiques aussi, etc., etc. Il a pas traité de toutes ces questions-là. On peut dire simplement un mot peut-être de sa théorie sur ce qu'il appelle la scène eucharistique. Ça a une grande portée dans la vie religieuse des calvinistes. Calvin a emprunté à Luther et à Zwingli une partie seulement de leur enseignement sur l'Eucharistie. Il admet, comme Zwingli, que le pain et le vin sont des simples signes du corps et du sang du Christ. Je répète, le pain et le vin sont de simples signes du corps et du sang du Christ. Mais il admet, comme Luther, que dans la communion, le Christ se communique vraiment aux fidèles, quoique seulement par sa force et en esprit. Et il enseigne quelque chose d'autre qui est très étrange. Au lieu d'une présence réelle de Jésus-Christ, Calvin reconnaît sa présence virtuelle dans le sacrement, et du reste, Calvin, par là, ne faisait qu'appliquer à l'Eucharistie sa théorie de la prédestination. Voilà la chose la plus étrange. Les prédestinés seuls, dit-il, reçoivent le Christ, et les réprouvés seulement du pain et du vin. Pas drôle d'être réprouvé, hein? Calvin écrit, « Quiconque affirmera que le contenu de l'Écriture est une fiction sera traîné au supplice. Il est du devoir du magistrat de punir par le glaive et par d'autres châtiments ceux qui, après avoir renié leur foi, sollicitent les autres une semblable apostasie, c'est-à-dire la foi calviniste. » Il ajoute, c'est avec raison que Saint-Augustin a dit, et c'est terrible si Saint-Augustin a vraiment dit ça, « Il est utile que les hommes soient amenés à la foi contre leur gré. » Allons voir que la pratique, dans la pratique, là, comment Calvin entendait appliquer ses principes plutôt très rigoureux. Hein? Calvin se proposait de mettre l'unité de foi dans l'Église de Genève, l'Église calviniste, et pour cela, il n'a pas hésité à imposer aux habitants de Genève son propre credo, son propre « je crois en Dieu », son credo. En avril 1537, il a fait contraindre par les magistrats de la ville tous les habitants à jurer un à un dans leur maison devant un disonnier, un homme chargé de ça, de leur quartier, là, qu'ils considéraient l'intercession des saints comme superstition. On serait bien mal pris à cette émission, nous qui parlons des saints avec amour et tendresse, comme étant pour nous des modèles de tout genre, des facettes comme celles d'un diamant, de la grande sainteté du Christ. Un diamant qui a de nombreuses facettes. Le Christ a d'innombrables facettes dans son corps mystique, et ce sont les saints qui reflètent la lumière divine. Par la grâce qu'ils ont reçue et l'union qu'ils ont bien voulu accepter dans leur âme. C'est ça, les saints. Ils acceptent de s'unir à Dieu. Et donc, ils considèrent l'intercession des saints comme une superstition. Ils considèrent les sacrements comme des fables, des mensonges. Ils considèrent la messe du pape comme une ordonnance diabolique, dit-il. Les églises catholiques papistes, comme il dit, comme des synagogues du diable. C'est pas très gentil à l'égard des juifs. Et ils considèrent toute leur vie comme devant être réglée au commandement de la sainte loi de Dieu. Alors, certains habitants de Genève ont juré, d'autres se sont abstenus. Alors, le conseil a déclaré que ceux qui n'avaient pas voulu jurer devaient sortir de la ville. Et il fallait que leur conscience entre délibérément dans l'Église telle que Calvin l'avait définie, ou bien qu'ils partent. Et Calvin proclamait aussi pour son Église le droit d'écarter les fidèles de la scène, de l'Eucharistie, et pour les magistrats le devoir d'exiler les excommuniés. Et là-dessus, mais les magistrats ont regimbé, finalement, il n'y a pas de liberté du tout. Finalement, en 1538, le 23 avril, il y a eu un conflit qui s'est terminé par l'exil de Calvin. On a fiché Calvin dehors. On en avait assez. Et Genève lui a donné 3 jours pour disparaître et pour amener avec lui son fameux ami Farel. Là, les conseils de Genève vont, à ce moment-là, jouer un rôle de chef d'église. Le césaropapisme triomphait, si on peut dire. Vous savez, l'union de César et du pape. L'union de l'État et de l'Église, c'est ce que ça veut dire finalement. Et on croyait vivre sous le règne du pur évangile, c'est ce qu'on pensait. Mais la distinction primordiale entre le domaine de César, de l'État, et le domaine de Dieu, que l'évangile avait introduit dans le monde, était abolie. Alors il s'est trouvé des pasteurs pour accepter ce régime. Mais il y a eu des caprices politiques qui ont renversé bientôt les magistrats qui avaient exilé Calvin. On a ramené ses amis au pouvoir, Calvin était rappelé et rentré en maître à Genève, et là, c'est la catastrophe pour les Genevois. Il devient directeur de la conscience publique. Calvin fait nommer un consistoire, ils ont toujours ça, les protestants, des consistoires, hein, pour l'administration de l'Église. Et ce consistoire a été chargé de la discipline morale de la ville de Genève. Et ce tribunal enquêtait, réprimandait, parfois excommuniait, dénonçait en fait les coupables. Et s'il y avait lieu, aux magistrats détenteurs du glaive, détenteurs du pouvoir, détenteurs de la punition, de l'emprisonnement et même de la mort. Alors on comparaissait devant lui pour toutes sortes de gamineries, pour des débauches, pour de l'adultère, parce que des jeunes gens avaient organisé un bal, pour des blasphèmes, pour un festin où il y avait trop de nourriture, pour manque d'assiduité aux prédications, aux prêches, comme on dit. Ou pour superstition papiste, comme on disait aussi. Une nouvelle codification des lois à Genève que Calvin a préparée sur la demande du Conseil là, a inséré la peine de mort contre l'idolâtrie. On sait ce que Calvin entend par idolâtrie. Il va pas de main morte. Contre les blasphémateurs, contre le fils qui frappe son père, contre l'adultère, contre l'hérétique, etc. Alors le bannissement est devenu une peine très fréquente, il y a eu dans les années 1542-1543, 76 décrets de bannissement. La peste s'est répandue à Genève à un moment donné. Et Calvin, qui était infaillible, lui, maintenant était devenu plus infaillible que le pape en matière de doctrine, croit comme tout le monde qu'elle était la peste le résultat de maléfices. Et les gens, il y a beaucoup de gens qui pensaient comme ça à cette époque-là. Ils n'étaient pas tout seuls. Il ne faut pas accuser Calvin de monstruosité à ce point-là, parce que les gens étaient très superstitieux, puis ils le sont encore aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui croient que, parce qu'il y a beaucoup de péchés dans le monde, Dieu va abattre de son poing l'humanité, puis une grande partie de l'humanité, dans sa justice, va mourir. Il y a des gens, des catholiques, qui croient ça aujourd'hui. On voit ça dans des journaux, c'est terrible. Les gens soupçonnés d'être des responsables de la peste là, ont été privés non seulement de la Sainte Cène, de l'Eucharistie, mais encore de la vie. Et dans les 4 premiers mois de 1545, il y a eu 19 femmes et 7 hommes qui ont péri. Puis Genève semble avoir été le foyer d'où s'est répandu dans les cantons suisses, là, puis dans la Savoie, qui était qui est dans la région des Alpes, là, et jusqu'à Lyon, dans le sud de la France, la croyance à tout ça, ces gens qui sont responsables de la peste, on répandait ces idées-là. Pendant les seules années 1542-1546, on a compté à Genève 58 condamnations à mort. Du 17 février au 15 mai 1545, il n'y a eu pas moins de 34 personnes brûlées, cartelées ou pendues. Le 6 mars 1545, le directeur de la prison, l'ancien évêché qui avait été transformé en prison, est venu dire aux conseillers qu'il ne savait plus comment loger et nourrir les captifs. Alors, parmi les victimes du dogmatisme de Calvin, il convient de citer quelques noms. Il y a eu Sébastien Castellion qui s'est vu expulsé de Genève pour avoir contesté l'inspiration du livre Cantique des Cantiques dans la Bible. Et puis, bonjour, vous fait grâce des autres noms, c'est pas tellement important. À l'issue d'une espèce de rassemblement de pasteurs où un accusé s'était expliqué devant Calvin, cet accusé, Bolsec, fut arrêté pour blasphème et Calvin a lancé contre lui un violent pamphlet puis a obtenu qu'il soit banni. Parce que la cité de Dieu, disait-il, ne pouvait souffrir les impies. Oh, il y a eu un fameux médecin espagnol, Michel Servet. C'est lui le premier qui a entrevu la circulation du sang. C'est un savant. Or, l'animosité de Calvin contre ce personnage remontait de longues années, à 1534. Puis là, Servet a publié un livre, Christianis Simi Restitutio, qui... ça a mis le comble, ça. Cet ouvrage ne contenait pas seulement une réfutation des doctrines de Calvin, mais encore l'exposé des opinions les plus indépendantes puis les plus hardies touchant la religion chrétienne en général. Il a été dénoncé par Calvin lui-même. Aux inquisiteurs catholiques de Vienne, imaginez, Servet, cet Espagnol est parvenu à s'échapper de cette ville, de Vienne, puis a été assez imprudent pour se réfugier à Genève, où il a été découvert, et Calvin a montré, au cours de son procès, un acharnement extrêmement rigide. C'est historique, ça. Il n'est peut-être pas seul. Ça existait du côté catholique aussi, des gens comme ça. Alors, il disait que la cause soit définie par la mort de lui ou de moi. Il était prêt à mourir si l'autre ne mourait pas. Et c'est terrible. Servet a subi courageusement son supplice. Il est mort en s'écriant « Jésus, fils du Dieu éternel, aie pitié de moi ». Mais Calvin, lui, a ridiculisé la mort de Servet. Mais Calvin a dit « Il n'avait non plus de contenance qu'un démoniaque et sur la fin, le cri surmonta tellement que sans cesse, en se frappant la poitrine, Michel Servet beuglait à l'espagnol « Misericordias, misericordias ». Alors le bûcher de Servet, ça a soulevé des protestations. Elles ont été nombreuses et éloquentes, et Calvin n'a pas entendu rester comme ça devant tout ça en se calmant. Il écrit une défense de sa conduite. Et je vous fais grâce de tout ça, c'est abominable, abominable, pauvre homme. Et le fameux Théodore de Bèze, B.E., accent grave, Z, c'est un nom très important dans l'histoire du calvinisme, a soutenu la théorie de Calvin sur l'application de la peine de mort aux hérétiques. Puis, il n'est pas moins vrai que le bûcher de Servet a pesé sur la conscience de Calvin. Et pour excuser la cruauté du juge, ses admirateurs calvinistes ont rejeté la faute sur l'esprit du temps. Dans un sens, c'est assez vrai. On a dit, ce n'est pas Calvin qui a dressé le bûcher de Michel Servet, c'est le 16e siècle tout entier. Alors, beaucoup ont parlé comme ça. On est allé dire qu'au 16e siècle, il n'y avait pas de tolérance. C'est faux. C'est mal connaître cette époque. C'est mal connaître le génie d'un grand nombre de réformateurs. Il y a eu de grands réformateurs protestants qui se sont plaints de la conduite de Calvin. Des réformateurs protestants qui avaient du cœur, il y en avait. Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme, déclare Castellion. Et lorsque les Genevois tuaient Servet, ils ne défendaient pas une doctrine, ils tuaient un homme. Puis, s'adressant à Calvin, ce protestant continue, tu as fait mourir Servet, pourquoi? Parce qu'il dit ouvertement ce qu'il pense, ou parce qu'il pense ce qu'il dit ouvertement? Tu le tues parce que tu crois qu'il se trompe, et il faut tuer tous ceux qui ne pensent pas comme toi? À ce compte, toutes les sectes devraient persécuter les autres. Voilà la clé du problème. Et on sait qu'aujourd'hui, des sectes... Mon Dieu, mais il y en a. La terre en est couverte. Nous verrons la suite tout à l'heure. Nous allons terminer cette émission difficile sans accuser les protestants. Ils sont redevables de toute une époque et d'un désir, je crois sincère, de réformer le christianisme. Alors, nous avons vu que ce grand réformateur Jean Calvin affirme que cette doctrine, à lui, est certaine, que tout le monde doit y obéir ou disparaître. Or, les autres sectes en disent autant de la leur. Calvin affirme que les autres sectes sont dans l'erreur. Or, elles affirment que c'est lui qui est dans l'erreur. Et Calvin veut être juge. Or, les autres aussi veulent l'être. Qui va juger? Qui donc a nommé Jean Calvin juge souverain de toutes les sectes, avec le pouvoir exclusif de prononcer la peine de mort? On peut se poser la question sur quel témoignage que Calvin édifie-t-il son monopole de juge, là? Il possède la parole de Dieu, dit-il. Mais les autres aussi? Sa doctrine serait donc indéniable, mais aux yeux de qui? De Calvin? Mais les autres aussi prétendent qu'on ne peut nier leur doctrine. C'est ce que dit un protestant qui a changé d'avis. Bref, Calvin, qui a nié l'infaillibilité de l'Église catholique romaine, croit à sa propre infaillibilité à lui. C'est en vertu de sa propre infaillibilité qu'il punit et châtie ses contradicteurs. Michel Servet, par exemple, le voue à la mort. L'usage du XVIe siècle n'est pour rien, finalement, dans la sentence qu'il porte. Calvin, c'est le représentant de Dieu sur la terre, dit-il. L'unique représentant avec le pouvoir, comme on dit, du glaive. C'est le vrai calvinisme défini par Calvin lui-même et par ses adversaires protestants du XVIe siècle, mais surtout catholiques. C'est triste, parce que quand on pense, je me souviens du pasteur Bugner, responsable de l'Église réformée calviniste de France que j'ai rencontré, un homme de Dieu, de grande foi, de grande charité et de grande bonté. Absolument pas héritier de cet aspect-là de Calvin, mais pas du tout. Il est pensé aux moines de Thésée. Il y a plusieurs calvinistes qui sont moines, là. Pleins de tendresse, pleins de bonté. Genève était donc une cité de Dieu, d'après Calvin, qui était réduite à l'unité de discipline, l'unité de doctrine. La forte poigne de Calvin était là. Et du dehors, d'Italie, de France, d'Écosse, nombre de réformés se rendent à Genève. Ils viennent prendre des leçons d'orthodoxie. Comme je vous ai dit au début de l'émission, John Knox vient d'Écosse, le plus illustre d'entre eux, qui se plaît plus tard à saluer dans Genève la meilleure école chrétienne qui eût paru sur la terre depuis les jours des apôtres. Peut-on dire des choses aussi terribles? C'est que pour achever de transformer les Genevois en chrétiens et pour achever de transformer en Genevois les chrétiens exotiques qui affluaient à Genève, Calvin avait fondé une école de théologie. Alors, les gens étudient là. On a eu parfois 1 million d'auditeurs se presser aux leçons de théologie que donnait Calvin. 1 million! En moins de quelques années, il y a eu 120 pasteurs qui ont été formés à Genève, qui ont été envoyés à l'étranger, notamment en France. Et ce fut de cette académie, de Calvin, de ce séminaire héroïque, comme disent des écrivains comme Michelet, que sont sortis tour à tour des académies protestantes à travers la France, puis des universités presbytériennes en Écosse, et puis l'université de Heidelberg aussi, en Allemagne. Le zèle qu'a déployé Calvin dans son apostolat a épuisé son énergie, il est mort, insatisfait de son œuvre et de lui-même. Le soir du 27 mai 1564, où il n'était pas vieux, il avait 53 ans seulement. Parlant de cette date funèbre, Théodore de Bèze écrivait « Voilà comme en un même instant ce jour-là, le soleil s'est couché. et la plus grande lumière qui fut en ce monde pour l'adresse de l'Église de Dieu a été retirée au ciel. Imaginez la plus grande lumière. Nous pouvons bien dire qu'en un seul homme, il a plu à Dieu de notre temps nous apprendre la manière de vivre et de bien mourir. L'œuvre du grand réformateur, c'est certainement extraordinaire, ça j'en conviens moi personnellement. Mais on ne peut pas méconnaître qu'elle était en contradiction avec le principe même de la réforme. Il y a du dogmatisme dans cette réforme au début, de l'intransigeance, de la cruauté même, qui ont rendu maître de Genève cet homme étrange, qui en ont fait finalement de cette doctrine une ville-église, une cité de Dieu, hors de laquelle il n'y avait pas de salut, hein, en forgeant puis en disciplinant ici Genève à la guise de Dieu, comme on dit, c'est-à-dire à la sienne, Calvin a joué le rôle de pape infaillible. Le libre examen dont se réclamait la réforme avec Luther était devenu, sous Calvin, un mot vide de sens. Il n'y avait plus de libre examen. Il n'était plus question d'étudier la Bible en toute liberté. Qu'allait devenir avec lui la Rome protestante? Qu'allait devenir Genève? Calvin n'a pas su voir, en somme, dans l'Église, moi c'est mon point de vue, dans l'Église catholique, un organisme vivant, appelé par conséquent à se modifier au cours des siècles, suivant une loi interne, comme on l'a vu au Concile Vatican II encore, sans toutefois se transformer dans ses bases profondes. Calvin a tenté de remonter aux origines du christianisme, telles qu'elles lui apparaissaient. Il a tenté de réformer la doctrine puis la discipline sur le modèle d'autrefois, antique, et sûr de son infaillibilité personnelle. Puis de la grande valeur de sa doctrine, il a réclamé tous les droits du pape, les droits de celui qu'on appelle le serviteur des serviteurs de Dieu, le vicaire du Christ. Il veut édifier, lui, une église chrétienne autonome, autoritaire, dure dans son dogme et dure dans sa morale. Il ne comprend pas que l'unité, c'est une chose essentielle dans l'église du Christ, à mon avis. Il ne comprend pas que l'église, malgré les faiblesses de ses membres, et nous, catholiques, nous le connaissons bien, mais l'Église catholique reste l'union de l'homme à Dieu, sous une forme sociale, et Calvin n'a pas compris, malheureusement, que l'Église ne peut pas être divisée, puisqu'il n'y a qu'un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu Père de tous, qui agit par tous, qui est en tous. Je n'ai pas raconté ça pour que vous méprisiez nos frères protestants, loin de là. Je vous le dis, je vous le répète, dans le protestantisme, il n'y a plus cette attitude-là, pour ainsi dire. Et j'espère que dans le cœur des catholiques, il n'y a plus d'attitude mesquine à l'égard de nos frères séparés. Prions avec eux. Sachons prier vraiment avec eux, dans la mesure où c'est possible. Sachons les recevoir, les accueillir et les aimer. Ils sont sincères, et c'est dans leur sincérité, c'est là qu'est leur grandeur. Le Christ est avec eux, comme il est avec nous. Ô Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Je veux chanter au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait. C'est l'ouverture de la messe d'aujourd'hui. Disons-la en pensant à tous nos frères protestants, que nous devons, du fond du cœur, aimer et appuyer, dans l'espérance d'une union à venir.